constitue pas un objectif prioritaire. J'aurais préféré remporter une Ligue des champions supplémentaire ou une Copa América plutôt qu'un nouveau Ballon d'Or. Cela dit, c'est un trophée très important pour ce qu'il incarne et pour la qualité des joueurs qui aspirent à le gagner. J'apprécie surtout le fait qu'il arrive à un moment très spécial de ma vie, une étape très satisfaisante sur le plan personnel, et j'éprouve un grand plaisir à pouvoir partager cette récompense avec toute ma famille.
Lionel Messi, tout de suite, c'est Alain Foka que vous retrouvez à la place.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour. Aujourd'hui, une auteure hollandaise, Neil Doff. Je lirai deux nouvelles extraites d'un recueil paru initialement en 1913 et réédité en 1981 aux éditions Plein Champ, intitulé « Contes farouches ». C'est qu'en effet, Neil Doff est né en Hollande en 1858 et elle a connu dans son enfance une misère atroce dont le souvenir l'inspirera quand elle commencera à écrire. Elle est, dès son plus jeune âge, passionnée de lecture. Après une période difficile, elle devient modèle dans les ateliers de peinture, où elle rencontre un jeune intellectuel, Fernand Brouez, qui va lui faire donner des leçons sur toutes sortes de matières qu'elle ignore, lui faire fréquenter le conservatoire, et surtout, lui faire apprendre le français, qui sera la langue qu'elle choisira pour écrire ses livres. Elle épousera Fernand Brouez, mais celui-ci disparaîtra prématurément à 35 ans, victime de paralysie générale. Le premier conte, intitulé « Un lapin », le met en scène de toute évidence. Nous étions attablés, à nous trois, l'architecte, le major et moi, chez la vieille garde. Elle tenait un cabaret dans son village natal et nous permettait, à cause de notre éducation, disait-elle, de nous retirer dans une petite salle attenante au cabaret pour être séparés des clients ordinaires. Ce soir-là, l'architecte était en pointe. Le major ne dégrisait jamais, et moi j'étais content de me trouver au chaud, ayant peint toute cette journée d'hiver dans les marécages. Le major poussa un juron et nous demanda si nous n'avions jamais posé un lapin. « C'était mon fort dans mon jeune temps, continua-t-il. Je vais vous conter un lapin que j'ai posé. C'est une histoire d'il y a 30 ans. J'avais deux amis, les frères X. Ils étudiaient la médecine, moi le droit. L'aîné mourut de la fièvre scarlatine contractée à l'hôpital pendant son internat. Le plus jeune était inconsolable et parlait tant de son frère que presque tous ses amis finirent par le fuir. Seul, je lui étais resté, pour deux raisons. D'abord que je ne l'écoutais guère, puis qu'il avait beaucoup d'argent, alors que mon père me tenait très court. À cette époque, j'étais insatiable de femme. Lui ne comprenait pas qu'on ramassât une créature sur le trottoir. Je le croyais impuissant. Bref, un soir que nous revenions d'une réunion d'étudiants, une toute jeune fille, qui semblait exténuée de fatigue, déambulait devant nous. « Prête-moi quelque argent, dis-je à mon ami, je te le rendrai demain. » Il me donna 20 francs. Nous accostâmes la petite et lui offrîmes d'aller prendre quelque chose avec nous. Elle regarda furtivement autour d'elle, comme si elle cherchait quelqu'un, puis nous accompagna. Mais au lieu d'entrer dans l'estaminet, elle nous dit qu'elle était pressée. « C'est bien, fis-je. Alors suis-moi. » Elle se tourna vers mon ami comme pour dire « Je croyais que c'était vous. » Il lui donna un coup de chapeau et alla comme toujours m'attendre au cabaret. J'aurais étranglé la groupe pour la préférence qu'elle venait de montrer. La boîte où je la conduisis était hideusement misérable et froide et bien en harmonie avec la créature que j'avais ramassée. Elle ôta son mince paletot. Elle n'avait pas de corsage. La chemise était lamentable et sale, ses épaules effroyablement maigres et son long cou mince était jaspé de piqûres de puce. Cependant, il se dégageait de ce corps flexible et frêle je ne sais quoi de frais et de grisant. Quand je l'eus près de moi, je fus pris d'une fureur érotique. Cette tête de 16 ans, encadrée de bandeaux blonds ondulés, était si virginale, et ses grands yeux clairs me regardaient avec tant de terreur et d'aversion qu'une envie folle me vint de l'abîmer. Mais elle ferma les yeux et la tentation se dissipa. Après, au moment de partir, comme je ne lui donnais rien, elle me demanda en hésitant, puis comme prise de rage, de la payer. D'un air étonné, je lui répondis « Comment ? Tu fais cela pour de l'argent ? Mais je ne t'avais pas prise pour une fille. Je ne serais pas venue. J'ai cru que tu avais un béguin pour moi, que tu voulais t'amuser, quoi. Je ne refuse jamais cette politesse-là. « Comment ? Tu es une prostituée. Ah, merci, si je l'avais soupçonné. » J'avais touché la corde sensible. Elle rougissait et pâlissait et tremblait convulsivement. « Payez-moi » répétait-elle d'un ton éperdu. « Payez-moi !»« Tu blagues ? Une prostituée est propre et tu es sale à dégoûter. » Et, la bousculant, je descendis en maugréant. En bas, je refusais de payer la chambre, mais la tenancière parlait de la police. Ne voulant pas m'attirer une affaire, je réglai. La tenancière insultait la petite qui se sauva, en pleurant, vers les boulevards. Riant, je racontai la chose à mon ami. Il se leva, reprit sans se gêner les 20 francs dans la poche de mon gilet et partit. Je criai après lui. « Elle est au boulevard !» Je le suivis à distance. Au milieu de l'allée des cavaliers, la fille sanglotait, la figure dans ses mains. Devant elle était une petite femme, mince et brune, l'air atterré. Je me cachai derrière un arbre. Mon ami s'approcha, ôta son chapeau, s'inclina très bas, et ayant ajouté un billet à celui qu'il m'avait repris, il les donna à la jeune fille, en s'inclinant encore une fois, puis disparut. « Ah, Dostoïevski ! » murmurai-je. « Ah, Sonia ! Ce n'est pas devant toi que je m'incline, mais devant l'humanité souffrante. Ah, le cabot ! Ces donzelles doivent bien rigoler. » Les deux femmes couraient en dévalant le boulevard. Cela m'intrigua. Une fois dans le faubourg, malgré l'heure tardive, elles entrèrent dans une boutique, achetèrent des copeaux, des fagots, des chandelles, du pain, des harengs sorts et d'autres victuailles que la vieille prit dans son tablier, pendant que la jeune fille se chargeait d'un petit sac de charbon. Puis, elles s'engouffrèrent dans une impasse. Ma foi, je voulus savoir jusqu'au bout. Par une étroite fenêtre qui s'éclaira, je vis 8 enfants, tous plus jeunes que la petite, se lever du plancher, et un homme se mettre sur son séant dans un lit. La femme découpait hâtivement le pain et les harengs. La fille alluma le feu, elle mit de l'eau à bouillir et prit une cafetière, mais les enfants mangeaient si voracement que tout fut absorbé avant que le café fût prêt. L'homme, maintenant debout en caleçon, titubait. Était-il ivre ou malade? Il dévorait tranche de pain sur tranche de pain. La vapeur commençait à s'échapper de la bouilloire, quand le plus petit des garçons tourna sur lui-même et s'abattit sur le plancher dans des convulsions atroces. Tous se mirent à crier « Clasche ! Clasche !» La fille souleva l'enfant, lui ouvrit la bouche, y fouilla pour enlever le morceau de pain qui l'étouffait, mais n'y parvint pas. Elle le porta sur le lit et lui arracha ses vêtements. Il eut encore quelques soubresauts, puis ne bougea plus. Alors, comme une démente, elle courut autour de la chambre en se heurtant la tête au mur, en criant. « C'est ma faute! J'aurais dû faire plus tôt ce que j'ai fait ce soir. Ils ne seraient pas morts. Je les ai laissés 2 jours sans manger, avant d'agir, et maintenant il s'est étouffé. Clasche ! Clasche ! » Tous hurlaient. Les fenêtres s'éclairaient, des gens se levèrent. Je trouvai prudent de filer. « Et votre ami ? » ?»« Oh, lui, avec ses plates idées humanitaires, il ne me regarda plus. Ha ha ! Il parlait toujours de justice. D'une justice immanente. Elle a été jolie pour lui, la justice immanente. Il me disait souvent, « Tu attraperas la vérole à lever ainsi des femmes, et ce sera justice. » Eh bien, la vérole, c'est lui qui l'a eue. Ah ! Oui, par une piqûre anatomique. Il a été 14 ans malade, puis, pendant 4 ans, la paralysie générale. Il était fou. Il est mort en décomposition. Et moi ? Dof s'est plus tard remarié avec un avocat d'Anvers, Paul Sérigier. Elle avait plus de 50 ans quand elle a pris la plume pour se libérer des terribles souvenirs de son enfance. Personne n'a parlé de la misère comme elle. Son premier livre, « Jours de famine et de détresse », largement autobiographique, fut proposé en vain au prix Goncourt par Laurent Taillade. Le deuxième conte, Maria, met en scène la bonne dame que fut Nil Doff dans les années heureuses de sa vie. Maria. La première fois que je la vis, ce fut chez moi. Elle m'apporta de la viande que j'avais chargé son père, le messager du village, de me rapporter de la ville. C'était une longue petite fille, excessivement sale. De ses fines mains boueuses, elle me tendit la viande, à peine enveloppée d'un mince papier. J'eus un dégoût et me fâchai. « Voyons, une grande fille comme toi, tu devrais te laver. C'est une honte d'être aussi malpropre. » Elle me regarda, terrifiée, et se cachant le visage de son bras, se mit à pleurer. « Tu pleures ? Tu es gênée que je te parle de ta saleté ? Mais non d'être sale. » Elle pleurait éperdument. « Allons, je n'ai pas voulu te faire de la peine. Tu as de jolies mains, va les laver. Hortense, donnez-lui une tranche de pain d'épices. » On dut lui fourrer le pain d'épices dans les mains. Elle se couvrait toujours le visage. Quand elle fut partie, je me traitais naturellement de sans cœur. Après, chaque fois qu'elle me rencontrait, elle se sauvait sur ses longues jambes en regardant derrière elle, tout effarouchée. Pour rien au monde, elle ne serait encore venue chez moi. Quelque temps après, Hortense, en revenant du village, vint me dire que Maria, du messager, avait eu une attaque, qu'elle était paralysée d'un côté, qu'elle avait perdu l'intelligence et la parole. « Que voulez-vous que j'y fasse ? » répondis-je, découragé. Elle couche, par cette chaleur torride, sur des guenilles infectées de vermine et de saleté, dans un trou noir, grand comme un placard, où jamais l'air ni la lumière n'ont pénétré. La femme de son père ne l'aime pas comme lui n'aime point le fils qu'elle lui a apporté. Tout leur amour va à l'avorton, né de leur mariage. Cette fine et jolie créature végète à côté d'eux, sans qu'on y fasse attention, sans affection. En passant par là, vous entendez toujours la marâtre crier contre la pauvre fille qu'on ne soigne pas plus qu'un sauvageon. Je ne puis rien faire, ils ne comprennent pas, c'est primitif. Je me traitais encore de sans cœur, puis j'y allais. Dans leur chaumière, je trouvais Maria couchée dans une niche, telles ces statues de martyrs aux parois des cathédrales. Ses délicieux cheveux, blonds épis, grouillants de vermine, étaient étalés autour d'elle sur l'oreiller. Ses grands yeux en amande, couleur or bruni, flamboyaient de fièvre. La bouche à moitié ouverte, haletait. Son adorable cou de tendron démesurément long avait une peau si fine qu'elle me semblait bleue. Quand elle me vit, elle prit ma main et d'un mouvement d'exquise confiance la serra contre elle. La moitié de sa figure se crispa dans un sourire qui fit se relever un coin de la bouche et se plisser un œil de façon atroce. « Homme, dis-je au père, si vous voulez que votre enfant guérisse, il ne faut pas qu'elle reste chez vous. Elle doit aller au couvent, où l'on accepte les malades. Je paierai pour elle si cela vous convient, mais ici, je ne puis rien faire. » « Non, non, je ne veux pas qu'elle quitte ma maison. » « Voilà comme vous êtes tous. Elle périt de manque de soins, elle sent l'urine, et cependant vous voulez la garder. Voyons, il lui faut des bains, de l'air, de la lumière. » La marâtre ne disait rien. Elle regardait froidement la petite martyre. On chuchotait dans le village qu'elle avait fait travailler l'enfant dans les champs par une après-midi de cette chaleur sénégalienne qu'il fit en juillet cet été-là. Le docteur entra et insista avec moi pour qu'on la transportât au couvent. Le père se décida. Il attela son âne, mit des bottes de paille dans la charrette, étala un châle dessus, et l'on y coucha Maria, qui souriait de son sourire hallucinant. Puis, suivis de toute la famille, nous nous rendîmes au couvent. Là, elle eut une bonne chambre avec une grande fenêtre au midi que le docteur recommanda de laisser ouverte, nuit et jour. On lui donna tout de suite un bain, du linge propre et du lait chaud à boire. Elle remerciait de son sourire navrant et d'une caresse de sa main valide. Les premiers 15 jours, il y eut peu de mieux, et quand j'allais la visiter, mon imagination me la représentait impotente pour le reste de ses jours. Je la vis rentrer chez son père, où elle était devenue une bouche inutile, sans espoir de guérison, où sa marâtre la négligeait et la laissait dépérir de faim et de saleté. Je la suivais dans la vie, j'assistais à la dégradation progressive de cet être fin, dont aucune souffrance n'avait encore pu entamer l'âme exquise, dont les gestes, le regard et les attitudes demeuraient d'une incorruptible distinction. Je la trouvai un jour, assise dans un fauteuil, vêtue d'une longue chemise de molleton bleu délavé, très ample. Je lui avais apporté des images d'Épinal qui l'amusèrent fort. Quand une des religieuses entra, elle les lui montra, toute joyeuse, en essayant d'expliquer que c'était moi qui les lui avais données. « Ah, mon Dieu, elle recommence à parler !» dîmes-nous en même temps. Une autre fois, comme j'entrais dans la chambre, elle était penchée hors de la fenêtre, regardant vers la gauche, où dans un groupe d'arbres et de maisons, elle pouvait apercevoir leur chaumière. Elle m'écoutait peu ce jour-là et se penchait continuellement à l'extérieur, la tête tendue vers son misérable chez-elle. L'intelligence lui était revenue. Elle pouvait déjà soulever la moitié de la jambe et un peu le bras, et commençait à sourire de toute la figure. Ainsi, lavée, peignée, fraîche dans sa robe bleue, elle avait cette beauté candide qui inspire de la tendresse respectueuse. À ma dernière visite, je lui apportais un ruban étroit de satin bleu. Je le lui nouais autour de la tête, avec le nœud au sommet. Comme il n'y avait pas de glace, j'écartai le rideau de la fenêtre et elle put se voir dans le carreau. Elle fut éblouie, se mit à rire, tâta le nœud, essaya de demander si c'était bien pour elle, et comme je disais oui, elle devint rose de joie. Sa jolie bouche s'épanouissait, montrant des quenottes fraîches et humides, comme d'un petit chat. Puis elle oublia le ruban et se pencha dehors pour regarder vers la chaumière. « Maria, écoute, qui préfères-tu, ton père ou ta mère ?»«
Père, » répondit-elle avec difficulté.
« Es-tu contente ici ?» Elle fit oui de la tête. « On te donne des bains ?»«
Oui, » dit-elle, d'un air très satisfait.
« Et une bonne nourriture ?»«
Oui. »
On sentait que cela tenait peu de place chez elle. Elle se repencha au dehors. Je me mis à côté d'elle et, montrant les maisons, « Où est la tienne, Maria ?» Elle me l'indiqua d'un élan de tout son corps. « Où préfères-tu être, Maria ? Ici, où tu as tout, ou dans ta maison ?» Elle se redressa et se jeta contre moi, sanglotant hystériquement, et désigna la chaumière en brandissant son bras tendu. « Maria, ma jolie sensitive, ma pauvre petite martyre !» pleurai-je avec elle. Je réécartai le rideau. En voyant son image adornée du ruban bleu,
elle se reprit à rire, d'un rire frais comme une prime vert. Quand je fus au jardin, je levai la tête vers la fenêtre. Elle était la moitié du corps à l'extérieur, toujours tendue vers là-bas. « Maria !» Elle se redressa. « Ah, quelle merveille ! Elle m'apparut, avec son corps émacié, enveloppé de son ample robe bleue, sa tête blonde au cou trop long et ses mains trop fines, comme un des anges jouant des instruments célestes, du tableau de même ligne au musée d'Anvers. Je dus quitter la campagne le lendemain. Le docteur m'assurait, devant les progrès obtenus, que Maria se remettrait complètement, que c'était une question de soins et de temps. « Docteur, elle peut rester au couvent aussi longtemps qu'il le faudra. »« Alors, madame, je réponds de sa guérison totale. » Je partis tranquillisé. Quelques jours après, je reçus une lettre du père disant que Maria s'était sauvée du couvent à travers champs et qu'elle était rentrée chez elle en sa jolie chemise bleue. « Et puis, madame, elle est presque guérie. Nous sommes de pauvres gens. » Et ma femme dit que nous devons penser à faire travailler cette grande fille de 13 ans. L'été suivant, me promenant dans les bois, je vis venir une vache, suivie d'une fillette qui boitait et dont le bras pendait le long du corps. Quand elles furent près de moi, je reconnus à peine Maria. « Maria ? » fis-je. Elle s'arrêta, mais ne me reconnut point. Elle était plus maigre que jamais, sa peau jaune tendue sur les pommettes, ses yeux d'or chassieux, la belle bouche blêmie aux dents crasseuses, ses adorables cheveux blonds en broussailles, raides de croûte et de lente, un haillon bleu l'enveloppait. Maria! Mais ma personne ne lui rappelait rien. Tout d'un coup, ses yeux s'agrandirent et s'arrêtèrent sur mes cheveux. J'y portais un ruban bleu coupé à la même pièce que le ruban que je lui avais donné l'année précédente. Je l'ôtai et le lui tendis. Elle le prit, le crispa dans sa main et éclata en sanglots. C'est tout ce que je pus en tirer. Quand je passe par chez eux, j'entends les imprécations de la marâtre contre cette bouche inutile qui mange le pain de son enfant et... Dans les bois, je rencontre Maria et la vache. La bête a un air de créature bichonnée à côté de cette loque humaine.
Quancam estas manuioi malplenai, ni povas danci cae canti gis venai.
Les deux nouvelles que vous venez d'entendre étaient extraites des Contes farouches de Neil Doff, édité par Plainchant en 1981. Elles ont été préparées et lues par Yvan Davy, qui a aussi assuré la technique. Les pauses musicales sont extraites du disque de Capriole, un groupe hollandais. Au revoir.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G. www.radio-g.fr. Thank you. Thank you. losing my. It keeps.
You finish what you start. You should finish what you start when it comes to love. For
besoin d'une pause ? Pause classique, c'est le lundi, une semaine sur deux, de 21h à 22h, sur Radio G.
Mon cœur de pierre brise les membres des dames. Issu des volcans, je connais et je réclame. La sueur, les torrents de magma, voilà que je rame sur un radeau d'un tronc de femme. Dilue en mer les poissons salement, perçoivent la texture de mes tourments. Dilue en mer les poissons salement, perçoivent la texture de mes tourments. La tête sous l'eau bouillante à contre-courant. Sans couleur, sans odeur, sans matière, sans fragment. Je rassemble ces corps échoués, douloureux. Les soulage, les décore selon les caprices des dieux. Dilue en mer les poissons salement, perçoivent la texture de mes tourments. Dilue en mer les poissons salement, perçoivent la texture de mes. Du feu sur cette île intime. Je les délivre de leur capsule infirme. Dilue en mer les poissons salement, perçoivent la texture de mes tourments. Dilue en mer les poissons salement, perçoivent la texture de mes tourments. Dilue en mer